Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, service public peut mieux faire. Sur une des banderoles, on pouvait lire « Population rurale abandonnée ». Un millier de personnes ont manifesté samedi dernier à Altkirch, dans le Haut-Rhin, pour s'opposer à la fermeture des urgences et de la maternité de l'hôpital de leur ville. Autre slogan relevé par le journal L'Alsace, qui couvrait ce rassemblement dans cette commune de 6000 habitants, « Sauvons nos services de proximité ». Alors ce type de mobilisation est loin d'être inédit. Ici, c'est l'hôpital. Ailleurs, c'est une sous-préfecture, un bureau de poste, une gare. La perspective de leur disparition donne souvent à voir le haut niveau d'attachement des populations à leurs services publics. Pour autant, le paysage, celui de leur répartition géographique, peut difficilement rester figé. La réorganisation des territoires, la mobilité des habitants, la dématérialisation des démarches administratives, mais aussi bien sûr les considérations budgétaires, transforme l'offre de services publics sans que la population ait toujours son mot à dire. C'est justement ce à quoi le grand débat national est censé remédier. Les services publics et leur organisation sont un des principaux thèmes de la consultation en cours. Alors, service public peut mieux faire ? C'est la question que nous posons ce soir en direct de Strasbourg depuis la librairie Kléber, librairie qui se trouve dans le centre-ville de Strasbourg, et ce en compagnie de quatre acteurs de la vie politique, économique et sociale alsacienne. À commencer par vous, Vanessa Wagner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la vice-présidente de la CPME du Bas-Rhin et du Grand Est. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, secrétaire générale de la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin et élue sans étiquette au Conseil régional. Pour discuter avec vous, Catherine Carteny, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de l'association JIP, JIP pour Jeunes Équipes d'Éducation Populaire, une association de prévention spécialisée. Vous y êtes chef de service dans les quartiers du Neuhof à Strasbourg, ainsi qu'à Schiltigheim.
À la Cité des Écrivains.
Troisième invité, Francis Clayette, bonsoir.
Bonsoir.
Maire de Guebwiller, dans le département du Haut-Rhin. Vous êtes maire de cette commune depuis 2014. C'est donc votre premier mandat. Vous êtes par ailleurs conseiller régional. Vous avez été élu sur la liste de l'UDI. Et puis quatrième invité, Christophe Odermatt, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Vous êtes responsable force ouvrière au conseil départemental du Haut-Rhin, secrétaire régional force ouvrière pour les services publics et par ailleurs technicien en charge du réseau routier au conseil départemental du Haut-Rhin. Alors quand on est en charge justement du réseau routier dans cette période, alors on a vu un petit peu de neige par endroit ce matin quand on est arrivé de Paris pour arriver jusqu'à Strasbourg. Il n'y en a pas beaucoup, mais Aurélie Kiefer nous disait que demain dans l'Est il allait beaucoup neiger. J'imagine que c'est une période assez chargée par rapport à cette mission de service public qui est la vôtre.
Ah bah absolument, effectivement, c'est une mission essentielle qui est dévolue, alors notamment aux agents du département du Haut-Rhin, mais également aux agents qui travaillent dans les DIR, la DIREST pour les routes nationales et les agents des communes, puisque c'est un service public qui est absolument nécessaire aux usagers. Ça leur permet de pouvoir se déplacer, de pouvoir se rendre à leur travail, aller faire leurs courses et tout ce que vous voulez. Donc en fait, c'est quelque chose qui est absolument indispensable en termes de mobilité.
Et parmi les usagers, il y a notamment les entrepreneurs, tout le milieu économique. Vanessa Wagner, avoir un réseau routier en bon état, bien entretenu, c'est quelque chose qui est important justement pour le tissu économique.
C'est primordial, le temps c'est de l'argent, donc à partir du moment où effectivement, non mais c'est une réalité. Ce que je voudrais juste vous dire par rapport aux exemples que vous citiez tout à l'heure, c'est la question que vous soulevez, elle est effectivement essentielle. Pourquoi ? Parce que le service public, c'est d'abord le premier lien avec le citoyen, avec l'usager, et c'est aussi le premier lien qui donne à ses habitants envie de mieux être, de mieux vivre, et donc c'est vraiment une des priorités à mon sens. Et la petite entreprise, bien évidemment, qui doit aller travailler tous les matins, se rendre sur un chantier, si elle est bloquée sur une autoroute parce qu'elle n'est pas déneigée, ça pose forcément un problème.
Je reste encore sur ma thématique des routes, on ne va pas passer évidemment toute l'émission là-dessus, mais c'est quand même quelque chose d'important, parce que quand on veut qu'il y ait du lien, il faut que les personnes puissent se déplacer. Quand on est maire d'une commune comme la vôtre, Francis Kleitz, c'est important là aussi, j'imagine.
Ben, la mobilité, de toute manière, comme ça a été dit par M. Odermatt, la ville aussi est chargée sur son réseau communal de maintenir, bien entendu, les voiries praticables. Et la mobilité en général, sous toutes ses formes, est vraiment une des missions d'une municipalité.
Et on a vu d'ailleurs qu'à la faveur de ce mouvement des Gilets jaunes, c'était quelque chose qui était essentiel, puisqu'il faut rappeler quand même que ce mouvement social est parti d'une contestation de la hausse des prix du carburant. Alors cette contestation, elle a peut-être été moins visible dans les quartiers où vous travaillez, vous, Catherine Carteny, qui se trouve à la périphérie de Strasbourg, qui est peut-être mieux servie en matière de transport public et où l'utilisation de la voiture est moins nécessaire. Pour autant, est-ce que par rapport au public avec lequel vous travaillez, c'est quelque chose qui est important, justement, la faculté à se déplacer facilement?
Oui, c'est très important. Effectivement, depuis 2007, l'arrivée du tram a quand même désenclavé beaucoup le quartier, mais il reste effectivement très difficile, en tout cas par rapport aux personnes qu'on peut accompagner, de se rendre au centre-ville, parce qu'effectivement, vers les administrations, où effectivement c'est plus compliqué parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a de la perte de repères, il y a des difficultés par rapport à la question du langage, il y a un jargon administratif qui est difficile. Donc cet accès au droit, il n'est pas du tout évident, enfin si on parle de déplacement, mais en même temps c'est compliqué aussi pour les personnes qui, voilà, que nous on peut accompagner par rapport à cette question d'accès aux droits surtout.
Alors puisqu'on réfléchit ce soir à la façon notamment peut-être d'améliorer les services publics, on va pas être exhaustif en 40 minutes, ce serait évidemment impossible, mais sur cette question des transports publics, alors là j'élargis, on n'est pas seulement sur la route, mais l'ensemble des transports publics, est-ce que vous diriez en tout cas les uns et les autres que améliorer les services publics, ça passe notamment par une amélioration de l'offre de transports publics, Vanessa Wagner?
C'est surtout de réfléchir effectivement ensemble sur un territoire, parce que l'attractivité du territoire, tout le monde parle, et je pense que ce sera aussi un des sujets de désertification de la ruralité, ça commence par là. Si les territoires ne sont plus accessibles, il y a moins de personnes qui vont forcément aller y élire domicile, et donc de fait, vous aurez moins d'entreprises aussi, donc moins d'emplois, moins de services publics, puisque ça je pense que monsieur le maire pourra en parler mieux que moi, lorsqu'il y a moins d'habitants sur une commune, on enlève et on sous-finance finalement des services publics dont on a besoin. Donc c'est une question primordiale. Alors, mais c'est une réflexion qu'il faut mener ensemble.
Monsieur le maire va en parler dans un instant, mais je voudrais d'abord avoir la réaction de Christophe Odermatt.
Ah ben, c'est effectivement juste ce qui est dit. Quand vous avez des réseaux routiers ou des réseaux de transport ferroviaire qui sont limités, ça ne permet pas l'attractivité du territoire.
C'est le cas aujourd'hui, par exemple, en Alsace?
Alors en Alsace, globalement pas, je dirais, puisque l'offre de transport est relativement importante au niveau routier, autoroutier et transport ferroviaire. Avec le concours de la région, donc c'est relativement développé, mais toutes les régions ne sont pas favorisées de la même manière. Et donc, en fait, le manque d'infrastructures ou des infrastructures déficientes en matière de transport sont de nature à avoir des impacts sur les autres services publics. Par exemple, dans une commune, si vous n'avez pas de moyens de transport offerts à la population, les gens vont s'en détourner. À côté de ça, vous avez des enfants qui n'iront plus dans ces écoles-là. Vous avez des classes qui vont fermer. Et c'est l'engrenage infernal qui fait que on va vers la désertification.
Cet enclavement, c'est quelque chose que vous vivez, vous, Francis Kleitz, vous et bien sûr vos administrés, Guy Villers.
Oui, tout à fait. Alors, Guy Villers, c'est une ville, comme dit, d'environ 11 500 habitants. On a la particularité, on est à équidistance entre Colmar et Mulhouse, mais à l'entrée d'une vallée. Donc, on a une très jolie ville, un très joli site, entre vallée et plaine, mais aussi avec un vignoble remarquable, mais effectivement avec un vrai problème d'accessibilité par les transports en commun. Parce que Guy Villers avait le train qui a été arrêté à la fin des années 70. C'était la politique du tout voiture, tout pour la voiture. Et finalement, on a négligé un peu à l'époque, je pense, ces moyens de transport en commun. Et ça reste un des principaux sujets prioritaires pour ma municipalité. Je suis aussi conseiller régional et bien entendu, je pense qu'en Alsace, on a globalement un réseau de trains qui fonctionne bien, un réseau de TER, mais l'accès du train à Guy Villers reste vraiment un projet qui est d'ailleurs inscrit au contrat de plan État-Région.
Oui, parce que vous voyez passer le train, c'est ça, mais il ne s'y arrête plus. Vous avez une très très belle gare que vous avez mise en vente sur le site Le Bon Coin. Alors, je ne sais pas si elle est vendue, mais si jamais il y a des candidats qui peuvent aller voir justement cette petite annonce, magnifique bâtiment. Pourquoi l'avoir mise en vente? Est-ce que ça veut dire que vous avez renoncé justement à ce que Guy Villers soit à nouveau une étape que l'on puisse faire par le transport ferroviaire?
Oui, alors le sujet c'est donc une ancienne gare qui est un très beau bâtiment situé à l'entrée de la ville, donc très stratégique. La ville de Guy Villers est une ville qui a un passé très riche, également un passé industriel, donc on a une multitude de bâtiments anciens à reconvertir et on s'y attache. Mais la gare elle-même, si vous voulez, aujourd'hui, on espère, comme je l'ai dit, que le train revienne. C'est un projet d'environ 30 millions d'euros que la région poursuit dans les études. Donc on espère que au moins un tram-train refasse la liaison entre Bolvillers et Guébillers, mais la gare elle-même ne sera plus utile. Même si le train revient, un tram-train, en fait, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des points d'arrêt. Ça ressemble pratiquement à un arrêt de bus, quoi, avec un toit. Donc le bâtiment lui-même n'est plus utile aux fins du transport par rail. Donc en fait, on s'est dit que ce bâtiment-là, il avait un vrai intérêt. Il faut lui redonner vie. Il n'est pas utilisé aujourd'hui. Et nous, on voit bien, par exemple, un restaurant. Il y a actuellement temporairement une pâtisserie dans ce bâtiment, une pâtisserie qui fait des gros travaux dans son bâtiment d'origine, qui craignait une perte de chiffre d'affaires par la situation de ce bâtiment à l'entrée de la ville, elle est en train de progresser dans son chiffre d'affaires. Donc elle-même commence à s'intéresser à l'achat de ce bâtiment. Donc on voit que sur des anciens bâtiments comme ça, il y a un vrai potentiel pour peu qu'on mène la bonne procédure.
Voilà, ça c'est intéressant aussi de voir comment on peut reconvertir d'anciens lieux qui abritaient des services publics et de les faire vivre quand même, et d'apporter d'autres services au public qui peuvent être des services d'ordre privé, d'ordre commercial. Alors dans la zone dans laquelle vous travaillez, Catherine Carteny, donc je rappelle le quartier du Nord à Strasbourg, et puis le quartier des écrivains à Schiltigheim. La question se pose un peu différemment, mais pour élargir peut-être un peu à la question des services publics, ça ressemble à quoi, tiens, par exemple, au Neuhof, l'offre de services publics, et comment on fait pour accéder, je ne sais pas, par exemple à la Poste, à la Caisse d'allocation familiale, à Pôle emploi, quand on est un habitant de ce quartier du Neuhof?
Bah, depuis 2005, il y a eu le programme de rénovation urbaine, hein, donc dans le cadre de l'ANRU. Donc beaucoup de services publics ont pu voir le jour aussi dans le quartier du Neuhof précisément.
L'ANRU, je rappelle, hein, c'était le grand programme de rénovation urbaine.
Oui. Donc voilà, qui a démarré en 2005 et qui justement a ramené le tram en 2007. Et du coup, il y a eu un tas de services qui a pu effectivement voir le jour. Et aujourd'hui, par exemple, ce qui importe beaucoup les habitants, c'est le Pôle emploi, c'est la CAF, c'est la Sécurité sociale. Et il y a une maison de service au public qui est née en 2017 et qui sert effectivement aujourd'hui beaucoup par rapport à toute la question de la dématérialisation pour les personnes qui n'ont pas accès à l'informatique et qui permet aux gens d'être accompagnés par des jeunes services civiques à pouvoir un petit peu naviguer sur être informé sur les démarches, comment faire, et donc pouvoir accéder aux droits et un peu à l'autonomie aussi.
C'est une maison de service au public, c'est-à-dire qui s'est substituée à une absence de certains services publics, ou bien est-ce que l'idée c'était d'abord de regrouper peut-être des services qui étaient dispersés et pas forcément très faciles d'accès?
C'était une fermeture de la CAF dans un premier temps, puis effectivement c'était de regrouper dans un seul lieu effectivement ces différents services, et ça se trouve dans la Poste aujourd'hui du quartier.
Vous, Christophe Audermatt, qui est donc secrétaire général force ouvrière du conseil départemental du Haut-Rhin, et puis qui vous occupez des questions de fonction publique et des services publics. Il faut rappeler que FO est un syndicat qui est justement très implanté dans la fonction publique, notamment territoriale. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette façon de faire progresser les services publics en les regroupant? On peut voir ça de différentes façons, c'est-à-dire soit à la fois les rendre plus accessibles parce que plus visibles, mais aussi regrouper, ça peut vouloir dire mutualiser, et mutualiser, ça peut vouloir dire en abandonner certains.
Ah ben c'est effectivement c'est le corollaire. À partir du moment où vous regroupez des services publics parce que la personne qui s'en charge n'a plus les moyens d'avoir des structures et des bâtiments un petit peu partout, ben à un certain moment, vous éloignez inévitablement les usagers de ces services publics. Donc certains usagers doivent se déplacer davantage pour pouvoir y accéder. Et on perd de la proximité, c'est ce qui est essentiel dans le service public. C'est le service rendu à l'usager et c'est un service de proximité.
Mais moi, je vais vous rétorquer en tant qu'usager que peut-être je vais y gagner de la lisibilité parce que je vais savoir que pour toutes mes démarches administratives, il y a un seul endroit où je vais aller et peut-être d'ailleurs un seul interlocuteur, donc quelqu'un qui me connaîtra davantage et que je connaîtrai également un peu mieux, et ce sera cette maison, par exemple, des services publics. Non,
pas forcément, puisque quand vous avez des accueils CAF, par exemple, où vous avez des personnes qui viennent pour avoir des renseignements, ouvrir leurs droits, aujourd'hui, on les oriente sur des bornes interactives, et on n'est pas là pour leur donner des conseils. Globalement, on est là simplement pour leur permettre de pouvoir faire leur dossier. Donc, en termes de conseils, je suis pas persuadé que ce soit efficace.
Vous en pensez quoi, vous, Vanessa Wagner ?
C'est difficile. Il n'y a pas une réponse, en fait, en réalité. Moi, je crois que, effectivement, la proximité est importante. Par contre, on est quand même dans une société, je suis désolée de le dire, qui a évolué, qui est diverse, qui est plurielle, et on ne peut pas.
Faut pas être désolé de dire que la société a évolué.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en train de comparer ce qui ne l'est pas. Le modèle administratif tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un modèle administratif basé sur l'uniformité. C'est une réalité. Je pense qu'à un moment donné, il faut changer le logiciel et s'adapter aussi à la réalité de la société. La réalité de la société, qu'on le veuille ou non, elle est aussi numérique, elle est aussi évolutive, elle est aussi dans l'adaptation des nouvelles façons d'être ou de se comporter. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les services publics, je dis simplement qu'il faut s'adapter. Pour ça, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place. Alors, je ne sais pas si on est déjà dans les solutions ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je prends l'exemple des toutes petites structures. Sincèrement, un chef d'entreprise, alors un artisan qui a 3, 5, même moins de 10 salariés, vous croyez vraiment que ça l'intéresse d'aller une fois à gauche, une fois à droite, une fois au milieu, pour aller se faire délivrer un seul document qui a la même fonction? Je veux dire, l'uniformité, c'est quoi? C'est aussi la lisibilité, c'est une meilleure compréhension aussi des uns et des autres, c'est effectivement peut-être personnaliser le service, c'est ce qui manque peut-être aussi, et c'est aussi de le spécialiser. Quand je dis de le spécialiser, c'est que souvent on a affaire à des interlocuteurs, et c'est pas de leur faute, qui sont pas forcément au fait de comment fonctionne une entreprise, de comment fonctionne tel ou tel contrat de travail. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en place ensemble, c'est peut-être en amont de faire de la pédagogie à la fois pour l'usager, mais aussi de la pédagogie en interne. Pourquoi ne pas faire en sorte que les administratifs qui sont à un moment donné amenés à rencontrer une entreprise, à rencontrer un salarié, qu'ils aient aussi des stages au niveau des entreprises pour pouvoir s'adapter et mieux comprendre peut-être l'usager. Je crois que très simplement, et je m'arrête là, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est aussi une question de confiance, je crois. Il faut arrêter à un moment donné d'individualiser et de dire quand on est fonctionnaire au service public, ça ne fonctionne pas, et quand on est dans le privé, ça fonctionne. Je veux dire, c'est ça aussi la réalité des choses. Donc, remettons les gens autour de la table et que chacun arrive à se comprendre et qu'on puisse avancer ensemble.
Alors, le maire de Guebwiller, Francis Kleitz, et le représentant de Force Ouvrière, Christophe Odermatt, veulent réagir. Je commence par le maire.
Oui, alors, je suis un peu d'accord avec, bien sûr, les deux interventions. Le premier réflexe quand un service public est menacé, c'est de le défendre tel quel. Et c'est ce que fait d'ailleurs actuellement mon collègue maire de Dalkirch, Nicolas Gendaire.
Voilà, donc j'évoquais le projet de fermeture de la maternité des urgences.
Le service des urgences et les maternités de l'hôpital sont menacés. Mais, je pense que...
Dossier auquel vous avez d'ailleurs été confronté, Guebwiller, pour la maternité.
Guebwiller a perdu sa maternité au début des années 2000. Mais finalement, Guebwiller est peut-être un peu mieux accessible. Enfin, à un meilleur accès peut-être vers les villes de Mulhouse et de Colmar que le fin fond du Sundgau. Hein, donc on ne peut pas généraliser non plus une situation. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce premier réflexe de défendre le service public tel qu'il est, il y a absolument à intégrer l'anticipation des besoins futurs. Et on a parlé aujourd'hui de dématérialisation. De plus en plus, les services eux-mêmes évoluent. Et il s'agit aussi d'intégrer ces évolutions et donc d'être intelligent dans la manière peut-être de remplacer ou de faire évoluer ces différents services. Je veux dire aussi, par rapport à ce qui a été dit par Vanessa Wagner, c'est que nous, à Guebwiller, par rapport à la carte grise, la carte d'identité, beaucoup de démarches aujourd'hui se font directement par Internet. La CPAM aussi a des bornes interactives, on l'a vu. Tout le monde n'a pas besoin d'une assistance. Beaucoup de gens se débrouillent. Par contre, il faut effectivement offrir aux gens la possibilité d'être aidé pour ceux qui ne le peuvent pas. Les jeunes en situation difficile, nous à Guebwiller, et c'est le cas en général dans les villes, on a une population relativement vieillissante avec beaucoup de gens aussi qui ne maîtrisent pas Internet. Donc on met le personnel de la médiathèque à des postes informatiques et assiste les gens dans leurs démarches administratives pour ceux qui auraient des difficultés, notamment pour les jeunes par exemple. On va aussi créer une maison des aînés spécifique, disons, pour offrir un service individualisé aux aînés qui en aurait besoin, parce que c'est vraiment des populations particulières qu'il faut assister dans ces démarches.
Christophe Odermatt.
Alors à Force Ouvrière, on n'est pas contre l'évolution des services publics et leur mutabilité, puisque c'est un principe. Pour autant, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des réformes, on a toujours une partie de la population qui reste sur le bas-côté. Donc, et notamment les populations les plus fragilisées, à qui le service public est essentiel. Donc les personnes âgées, le maire de Guebwiller l'a dit juste à l'instant, les personnes âgées, ce ne sont pas des personnes qui sont familiarisées avec les outils informatiques, par exemple. Les personnes qui ont des difficultés en termes de lecture ou d'écriture, c'est pareil, c'est des personnes, vous avez beau les mettre devant une borne informatique, ils n'arriveront pas à remplir un formulaire simple d'accès au droit pour la CAF ou ce genre de choses. Donc Il est normal que le service public évolue, mais pour autant, il faut penser à ne pas oublier les gens qui restent sur le bas-côté et les gens les plus défavorisés.
Catherine Carteni, justement, l'accompagnement des populations, et notamment, puisque je rappelle que vous faites partie de cette association de prévention spécialisée JIP, Jeunes Équipes d'Éducation Populaire, l'accompagnement des publics dans cette période forte de dématérialisation, un certain nombre de démarches auprès des services publics, c'est quelque chose justement qui est important
dans
votre travail ?
Oui, c'est important, et je crois que la question de la confiance, elle est extrêmement importante. Puis le rapport au temps n'est pas le même au niveau des démarches administratives à pouvoir mettre en place, et aussi à tout le travail que nous on peut faire qui va prendre du temps par rapport à la question de la confiance des personnes qu'on accompagne, par rapport au décodage, par rapport aux démarches qu'ils doivent pouvoir effectuer. Donc,
pardonnez-moi, quand vous parlez de confiance, c'est-à-dire est-ce que ça joue sur la confiance que peuvent avoir certains publics à l'égard justement des services publics ?
Tout à fait, tout à fait. C'est primordial, c'est vraiment primordial, parce que du coup, ça, et c'est ce qui se joue un peu avec la MSAP, où on travaille un peu en réseau pour permettre effectivement aux gens de pouvoir avoir confiance aux personnes qui les accueillent et de pouvoir effectivement arriver à ce que les personnes puissent accéder à leurs droits. Et du coup, par rapport à la question de la dématérialisation, je pense aussi qu'il est important qu'il y ait des parcours de formation qui puissent être mis en place pour des personnes qui doivent bénéficier de ces services, mais qui sont encore loin effectivement de ne pouvoir y accéder vu de la dématérialisation aujourd'hui.
Est-ce qu'une idée, ça serait pas simplement, c'est peut-être pas si simple d'ailleurs à faire, plus à dire, de conserver un système mixte, c'est-à-dire effectivement qu'il y ait de la dématérialisation, mais qu'il y a quand même la possibilité pour celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir se rendre dans un lieu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé depuis le début de la discussion, ce qui est rare en général d'ailleurs quand on parle des services publics, à moins que je ne m'en sois pas aperçu, c'est la question du coût. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut financer les services publics, alors à hauteur de quoi ? À hauteur de la satisfaction que vont avoir les usagers, à hauteur de leur efficacité ? Comment est-ce que vous envisagez cette question, vous qui êtes du côté du monde de l'entreprise, Vanessa Wagner ?
Moi, je voudrais juste vous dire que je suis ravie d'être ici ce soir, parce que ce qu'on voit ici, c'est
ça,
quoi ?
C'est une façon de ne pas répondre à ma question.
Si, je vais vous répondre très clairement. Écoutez ce que je vais vous dire. Au contraire, j'écoute beaucoup ce qui est dit. Et ce que je veux vous dire, c'est quoi ? C'est qu'on doit faire appel à l'intelligence des territoires. Chacun a sa propre expérience. Chaque territoire est différent. Chaque personnalité est différente. Nous avons effectivement les personnes âgées, les jeunes, et des personnes qui sont parfaitement à même de répondre, etc. Et c'est ça dont il faut qu'on s'inspire. C'est d'aller chercher et de faire un état des lieux, et c'est ce qu'on a proposé d'ailleurs, de faire un état des lieux des dispositifs qui existent sur chaque territoire, des potentiels qui existent et des besoins. Et
c'est donc une commune, par exemple, qui dit « moi, j'ai besoin de ma poste, moi, j'ai besoin de ma maternité », il faut l'écouter parce que c'est elle qui a la meilleure expertise ?
Non, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, je dis qu'il faut analyser sur un territoire les vrais besoins. C'est-à-dire qu'au lieu toujours de partir d'en haut et d'avoir la science infuse, de s'intéresser à un moment donné à ce qui existe sur les territoires, à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Mais ça veut dire qu'il faut aussi qu'on soit en capacité de dire quand ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, effectivement, il faut arrêter tel ou tel service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est que vous avez un certain nombre d'acteurs autour de la table. Quand est-ce qu'on se met autour de la table pour réfléchir ensemble aux services de demain ? C'est ça aussi la vraie question. C'est-à-dire que encore une fois,
c'est un des objets du grand débat national.
Mais oui,
justement.
Mais pourquoi n'a-t-on pas fait avant ? Alors, c'est très bien que ça soit fait, mais à un moment donné, c'est pas le tout de se parler, c'est le tout aussi de mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc, la mutualisation de ce qui fonctionne sur un territoire, ça peut très bien exister sur un certain nombre d'autres. Pourquoi ne le fait-on pas ? C'est aussi simple que ça la question.
Christophe Audemermat.
Je viendrai compléter les propos de
Vanessa Wagner,
qui est juste à côté de moi. Aujourd'hui, le gouvernement, enfin jusqu'à il y a encore quelques temps, avait tendance à négliger un petit peu la parole des organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou représentantes de salariés, mais également la parole des maires. Et aujourd'hui, le gouvernement s'appuie justement sur les maires, sur les élus de proximité, qui connaissent parfaitement les usagers et qui connaissent leurs problématiques, bah justement pour lancer ce débat national. Donc quelque part, le gouvernement se rend peut-être un petit peu compte qu'il a eu peut-être tendance à vouloir réagenter un peu les choses seul, sans tenir compte des forces vives qui ont des choses à dire et qui représentent la population et les citoyens.
Francis Claitz, maire donc de Guebwiller, je l'ai rappelé plusieurs fois depuis le début de l'émission, vous êtes maire depuis 2014, c'est votre premier mandat. C'est une ville qui a perdu un certain nombre de ses services publics. On a parlé de la maternité, on a parlé de la gare, il y a eu aussi la police nationale qui s'est transformée en gendarmerie, la trésorerie municipale. Alors, vous n'étiez pas forcément en fonction au moment où ces services publics ont disparu, mais est-ce que vous diriez qu'il y a aussi une forme de mouvement inéluctable inéluctable de transformation de ces services qui fait que, de toute manière, Guebwiller ne pouvait pas continuer à proposer ce type de service à ses administrés. Et est-ce que, question subsidiaire, il y a des services publics qui vous semblent manquer aujourd'hui sur votre commune?
Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, moi-même, je me pose de temps en temps la question parce que ce que je constate, malgré cette liste de services finalement qui ont disparu, qui ont été déplacés, qui avant étaient à Guebwiller, je pense que Guebwiller reste une ville très attractive. Enfin, et je pense qu'avec beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui manquent. On a cité tout à l'heure le train. Je pense que vraiment le problème de l'accessibilité par les transports en commun, quand on met une heure avec un bus pour aller à Colmar ou à Mulhouse, alors que c'est à 20-25 km, c'est vraiment un problème. Donc il y a vraiment ça, c'est un souci. Mais ce n'est pas le cas de tous les services publics. Il y en a un qui est très symbolique, que nous avons perdu de mon point de vue de manière très injuste, c'est la sous-préfecture. À un moment donné, il y a une réforme test des sous-préfectures sur l'Alsace et la Moselle, et la sous-préfecture de Guebwiller, comme trois autres en Alsace, a été sacrifié.
Elle a été vendue d'ailleurs aussi, je crois, c'est ça ?
Elle a été vendue à un mécène qui en
fait. On vend la gare, on vend la sous-préfecture.
Oui, mais pour des reconversions très intéressantes d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que la sous-préfecture, c'est très symbolique parce que ça donne un statut à la ville. Mais finalement, en matière de services, aujourd'hui, une sous-préfecture n'attire plus grand monde puisque finalement, l'État lui-même a quand même dématérialisé beaucoup de services. Donc, parfois, il faut être réaliste. La sous-préfecture a été rachetée par un mécène et transformée en maison. Un peu à vocation culturelle et à disposition des associations. Donc ça va devenir un nouveau lieu de vie, peut-être parfois beaucoup plus intéressant que la première destination de ce bâtiment. Donc voilà, c'est le quotidien du maire. Guebwiller, je vous l'ai dit, de par son passé, a un patrimoine très riche. Nous sommes en train de reconvertir un ancien tribunal des prud'hommes, donc prud'homme qui est parti sur Colmar, en pôle santé, c'est-à-dire je trouve beaucoup plus important pour la ville d'avoir une offre de santé en centre-ville, parce que l'offre de service crée aussi de l'offre pour les commerçants. C'est important de faire venir les gens en ville pour des services parce que c'est les commerçants ensuite qui en vivent aussi. Hein, par exemple, on a une ancienne annexe du collège qu'on reconvertit en école élémentaire avec un périscolaire intégré, vraiment digne, des attentes des parents de notre époque moderne. Donc, chaque bâtiment, finalement, on analyse le besoin prioritaire et on le reconvertit dans un nouveau besoin qui est plus important peut-être que celui qu'il avait avant.
Alors, ça me permet justement de passer à notre thème qui est celui de savoir si on continue un petit peu à phosphorer autour de l'évolution des services publics, de savoir si les services publics doivent être obligatoirement rendus par le service public. Alors, je pense par exemple au monde associatif que vous connaissez bien, j'imagine, Catherine Carteni. Est-ce que certaines associations ont vocation, peut-être, à vos yeux, à suppléer, peut-être parfois, alors le service public, voire à être missionné justement pour remplir des missions de service public. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous constatez par exemple dans les endroits où vous travaillez, et est-ce que ça vous semble une évolution intéressante ou bien au contraire une façon peut-être pour justement les pouvoirs publics de se défausser un peu peut-être sur le monde associatif?
Ben, je donnerais comme exemple la CAF, où effectivement il y a des référents CAF aujourd'hui dans le quartier, donc des acteurs associatifs qui sont référents CAF pour des personnes effectivement qui ont des soucis particuliers avec la CAF, mais du coup ça leur prend sur leur mission première, et du coup ce qui ne relève pas forcément de leur mission au départ, et du coup oui, ça, alors des ordinateurs peuvent être mis à disposition, mais c'est pas non plus quelque chose qui doit se pérenniser, parce que du coup on rentre dans quelque chose où finalement on permet pas aux gens effectivement de pouvoir les accompagner encore plus vers la CAF au centre-ville, et que du coup ça fragilise aussi les associations qui sont dans le quartier, et ça permet de ne pas avoir forcément les bons interlocuteurs tout de suite.
Vous qui faites de la prévention spécialisée, est-ce que vous vous retrouvez justement à remplir des missions aujourd'hui qui n'étaient pas les vôtres il y a encore quelques années?
On oriente un maximum, mais notre travail va vraiment être dans la question de la relation et de la mise en confiance et d'accompagner vers les services qui se trouvent effectivement ailleurs au centre-ville, et vraiment d'être un lieu où on peut orienter plus facilement et où on peut décoder dans un premier temps les démarches qui sont effectuées pour finalement accompagner les gens, pour qu'il y ait aussi une confiance qui se fait avec les structures à même de pouvoir les accompagner.
Sur cette question de la répartition, disons, des missions de services public entre public et privé, Vanessa Wagner, alors je rappelle que vous êtes la vice-présidente de la CPME du Bas-Rhin, c'est ça, et du Grand Est. N'oublions pas la région du Grand Est, voilà, nouvellement
créée. Ça, c'est un autre sujet.
Oui, on ne va pas se fâcher tout de suite, parce que ça mériterait parce plus que
là,
40 minutes.
Ça
mériterait
48 heures. On est encore là tous jusqu'à demain matin, ce qui en soi n'est pas dérangeant. Non, alors pour revenir effectivement à cette question-là, pour moi, elle ne doit pas suppléer, elle doit compléter. Alors évidemment, l'exemple pour nous, qui est un exemple d'actualité, c'est le PASS, le prélèvement à la source, où l'État nous a gentiment transformé en percepteur, puisque c'était à l'entreprise, effectivement, de mettre en place à la fois les outils nécessaires et puis la pédagogie aussi nécessaire, hein, qu'il a fallu pour expliquer aux salariés son bulletin de salaire à la fin du mois. Donc c'est l'exemple type, finalement, d'un service qui était un service public et qui est devenu, entre guillemets, un service rendu par l'entreprise. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat-là qui a fait un peu grincer des dents. Ni sur la finalité qui, à mon sens, n'est pas si mal que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit être...
Qui n'est pas si mal que ça, c'est-à-dire que finalement, cette mission-là, quand on est chef d'entreprise, c'est plutôt intéressant.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, sinon je vais rentrer, je vais me faire assassiner. Non, pas du tout. J'ai dit simplement qu'au final, c'est-à-dire la finalité de tout ça, c'est que le salarié sait exactement ce qu'il touche à la fin du mois, que les impôts sont payés et que... Je pense qu'au bout du compte, le résultat ne sera pas mauvais. C'est dans ce sens-là que je le disais. Maintenant que l'entreprise ou l'entrepreneur se transforme en percepteur, ça, à mon avis, ça me laisse perplexe. Et ce n'est pas notre rôle de toute façon. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui n'a pas été évoquée, à mon sens, ici, c'est qu'on a parlé beaucoup de dématérialisation. C'est une réalité. On a parlé d'adaptabilité. C'est une réalité. Pourquoi ? Et tout à l'heure, je parlais d'état des lieux. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas tout simplement ? Les services qui, à un moment donné, connaissent cette dématérialisation, et fortement d'ailleurs, hein, je pense... au service des impôts, je pense notamment aussi aux appels d'offres, etc., qui nous concernent nous directement. Pourquoi ne pas réfléchir aux compétences qui existent, c'est-à-dire la ressource humaine, on parlait tout à l'heure, inévitablement, peut-être des pertes d'emploi pour certains. Pourquoi ne pas réfléchir à cette compétence-là, la transférer vers des services publics qui aujourd'hui sont sous-financés ou en manque véritablement de compétences. Moi, je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on fasse à un moment donné, c'est de se dire, ok, là, il y a une évolution qui est réelle, qui est sociétale, pourquoi est-ce que les personnes qui sont en place et qui ont des compétences, on ne les transférerait pas vers d'autres postes où ils pourraient aussi évoluer, progresser et apporter un service public qui manque aujourd'hui.
Que pensez-vous de cette piste de réflexion, Christophe Odermatt ?
Alors, moi, j'aurais plutôt souhaité revenir un petit peu sur la question que vous posiez juste avant sur l'exercice de la mission de service public. Aujourd'hui, donc, il y a plusieurs formes d'exercice et on se rend compte que l'État, sur certains services publics, s'oriente sur des délégations de services publics. Et notamment sur les concessions autoroutières ou les concessions aéroports. Et ce sont des services publics qui aujourd'hui sont extrêmement rentables et rapportent beaucoup d'argent. Alors, des fois, on pourrait se poser la question, pourquoi l'État donne ces services publics en concession alors que les contributions qu'il rapporte pourraient justement venir financer du service public ? C'est peut-être ce genre de question qu'il faut se poser. Donc, l'intérêt de la délégation de services publics, il peut y en avoir dans certains cas, mais accessoirement, il ne faut pas non plus que les ressources que le service public peut procurer s'évaporent et puis partent au profit des actionnaires, par exemple.
Est-ce qu'il y a des services aujourd'hui, Christophe Odermatt, alors je ne voudrais pas non plus que vous vous fassiez trop engueuler peut-être par vos collègues de Force Ouvrière, mais des services qui vous sembleraient susceptibles justement de faire l'objet de ces délégations, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement devoir être remplis par des fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires de l'État ou des fonctionnaires territoriaux.
Par principe, à France Ouvrière, on estime que les services publics doivent être exercés par des fonctionnaires, par des agents sous statut, avec des garanties à la fois pour les agents, mais à la fois pour les usagers. Et notamment, une des garanties, c'est le principe de neutralité et le principe d'indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, quand vous avez un fonctionnaire ou un agent public qui rend un service, vous avez la garantie d'être traité sur le territoire de la même manière, quel que soit l'agent que vous allez rencontrer. Et ça, c'est essentiel. Par contre, quand vous êtes sur des délégations de services publics ou confronté à des sociétés, elles n'ont pas la même finalité. Elles sont là pour éventuellement faire du profit, mais elles ne sont pas là pour rendre le service public, avec les principes de neutralité que j'ai rappelé juste avant.
Francis Kleit.
Alors moi, j'ai pas de religion dans ce domaine. D'ailleurs, j'ai fait ma carrière également dans les services publics, puisque j'étais dans l'eau, le gaz, l'électricité durant toute ma carrière. Donc, à la fois du côté public d'ailleurs et du côté privé, en France et en Allemagne. Donc, j'ai tout vécu et je peux vous dire que les deux ont leur intérêt. C'est-à-dire, en tout cas,
vous aviez l'impression de faire le même métier ? Quand vous étiez dans le public et quand vous étiez dans le privé?
Oui, tout à fait. Alors, là, je peux vous assurer que dans les entreprises privées, dans le domaine de l'eau et de l'énergie, ont vraiment une responsabilité de service public. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, l'alternative entre public et privé permet de mesurer, de garder une compétitivité dans les services qui sont rendus. Hein, donc, quand un service public ne marche pas, et il y en a aussi qui marchent mal, on peut toujours avoir l'alternative de trouver une entreprise spécialisée. Et je peux vous dire que la différence, c'est que dans l'entreprise, vous n'avez pas des élus au-dessus de vous qui souvent ne sont pas des spécialistes du service, mais vous avez une hiérarchie qui est spécialisée dans le domaine duquel vous parlez. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une vraie, vérification que les propositions stratégiques que vous faites pour ce service soient validées par des gens qui s'y connaissent.
Un exemple de service public qui, à vos yeux, marche mal et qui devrait mieux fonctionner.
Ah ben, je veux dire,
allez, mouillez-vous.
Je peux pas de services qui marchent mal. Par exemple, si je prends les services que je connais bien, notamment le transport par rail, je pense qu'on a des entreprises qui fonctionnent bien, mais qui ont des hyperstructures et dont les coûts sont largement exagérés et qui limitent de ce fait-là le développement de ce moyen de transport parce que justement les coûts sont trop élevés. Donc c'est un peu ça le problème, si vous voulez. C'est que en mettant en place un peu de concurrence, un peu d'alternative, surtout sur des petites lignes. Aujourd'hui, la SNCF veut abandonner la plupart des petites lignes rurales, justement, qui n'ont pas suffisamment de passagers. Donc, je pense que là, il faut avoir des alternatives. Il faut avoir des structures de coûts qui soient plus légères pour maintenir, justement, voire développer ce type de service. Je voulais juste encore ajouter une chose. En France, on a une sorte de Vanessa a parlé tout à l'heure de logiciel. On est dans un logiciel très centralisateur. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de collectivité, on réapplique les mêmes modèles. Moi, j'étais en Allemagne, si vous voulez, qui a une culture très décentralisée. Quand le centre de pouvoir est proche des gens, les solutions qui sont trouvées sont tout à fait différentes. Moi, à Guebwiller, comme à Strasbourg d'ailleurs, j'ai encore une entreprise municipale qui distribue le gaz et l'eau. Et cette entreprise emploie 40 personnes. Quand vous regardez EDF, GDF sur l'est de la France, tout est concentré sur Besançon. C'est-à-dire, il n'y a plus de, pratiquement d'agents locaux qui travaillent. Donc, ça veut dire, finalement, les solutions locales, elles existent, elles peuvent être compétitives. C'est-à-dire, on a un raisonnement qui est parfois un peu trop standardisé.
Christophe Odermatt, vous voyez, un peu dubitatif.
Non, du tout. Après, on ne partage pas forcément la totalité des points de vue. Vous demandez des services publics qui fonctionnent mal. On peut citer l'exemple des EHPAD qui aujourd'hui sont en très très grande difficulté. Nos anciens qui sont dans ces EHPAD sont aujourd'hui confrontés à des difficultés d'absence de personnel. On devrait théoriquement avoir un soignant par résident. Mais aujourd'hui, on est très loin de tout ça. Et au final, au bout du bout, ce qui se passe, c'est qu'on a des résidents qui sont à peine, qui se lavent peut-être une fois par semaine, qui ne prennent pas correctement leur repas. Ils ne sont pas aidés pour ça, qui ont peu de services qui leur sont rendus, alors que ce service public est relativement onéreux. Donc on a besoin de penser aussi à ces personnes-là. Et on peut pas les laisser dans les situations dans lesquelles elles sont, en l'absence de moyens suffisants. Donc les services publics qui fonctionnent mal, il faut aussi se poser la question des moyens qu'on leur consacre. Si demain vous donnez pas de moyens aux services publics, les services publics peuvent pas fonctionner.
C'est vrai qu'on n'aura pas beaucoup parlé des coûts ce soir des services publics, on n'aura pas non plus beaucoup parlé des moyens, comme qu'on peut aussi sortir de ces questions effectivement budgétaire, mais ça reste quand même évidemment des questions importantes, la question des moyens, Catherine Cartini.
Ah bah oui, la question des moyens, on le voit par rapport au transport aussi, effectivement, le fait de se déplacer, le fait que les personnes sont dans une précarité économique très importante, c'est très compliqué effectivement de pouvoir aussi amener les gens effectivement à ce qu'ils se déplacent, et c'est pas forcément ça que pour ça que les gens ne se déplacent pas, mais c'est effectivement très compliqué pouvoir avoir pour des démarches précises, avoir des relevés de comptes qui coûtent je ne sais combien à la poste pour pouvoir faire des démarches, je ne sais plus pour quel service, c'est vraiment très compliqué.
Et ben voilà une amorce de discussion que l'on versera peut-être, ce sera notre contribution, une de nos contributions à ce grand débat national, amorce de discussion sur la question des services publics à laquelle je vous remercie d'avoir participé tous les quatre, Catherine Cartini, Francis Kleitz, Christophe Odermatt et Vanessa Wagner, merci d'avoir été présents ce soir à la librairie Kléber de Strasbourg. J'en profite évidemment pour remercier également toutes les équipes de cette librairie qui nous accueillent depuis ce matin. Merci également à toute l'équipe du Grain à Moudre, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster. Émission réalisée ce soir par Marie Placé. Avec à la prise de son Stéphane Foulon, Sébastien Huet, Gilles Manet, chargé de production ici à Strasbourg, Rémi Gouriot.